Salut à tous et à toutes, vous êtes sur CFM Radio, vous écoutez Retour vers le cinéma. Et aujourd'hui, je suis en présence de Vadim.
Salut les auditeurs et salut Lina.
Salut. Et il n'y a pas Elodie, donc salut, juste salut. Donc au programme aujourd'hui, la Minute Info comme d'habitude, le petit cake que t'as vu et un petit jeu sur la photographie. Et sans plus attendre, on passe tout de suite à la Minute Info.
Et cette semaine, vous pourrez retrouver au cinéma Gourou, un thriller mais aussi un drame, réalisé par Yann Cozlan avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon. Le film raconte l'histoire de Matt, qui est un coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'à la quête les autorités. Sous le feu des critiques, Matt s'engage dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être à la gloire. Nous retrouvons aussi La Grazia, un drame mais aussi une romance de Paolo Sorrentino avec Tony Salvio, Anna Felsetti et Orlando Cinque. Je suis très mauvais en accent, excusez-moi. Ici, le film nous raconte l'histoire de Mariano De Santis, président de la République italienne et marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit affronter des décisions cruciales et des dilemmes moraux. Deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé. Une plongée poétique et intime dans le cœur et l'âme du pouvoir. Et nous finissons cette présentation de film avec Nuremberg, un drame historique de James Vanderbilt, avec Russell Crowe, Rami Malek et Richard E. Grant. L'histoire se passe en 1945, avec le procès des dignitaires nazis à Nuremberg. Le psychiatre américain Douglas Kelly doit évaluer la santé mentale des accusés. Face au manipulateur Hermann Göring, il se retrouve pris dans un duel psychologique intense, confronté au mal absolu et aux limites de la justice humaine. Bien évidemment, tous ces films sont à retrouver au CGR d'Aussonne, mais aussi au CGR Le Paris de Montauban.
Eh bien, merci Vadim, et on passe tout de suite au « Qu'est-ce que t'as vu ?»
Eh bien Lina, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Alors cette semaine, Vadim, j'ai vu, ou plutôt revu, « La Jetée » de Chris Marker.
Je connais bien ce film.
Et oui, je sais que tu le connais très bien. C'est un film sorti en 1962, dont l'histoire se débute à Paris. C'est après une troisième guerre mondiale et la destruction massive du monde avec le nucléaire. Le héros est entraîné dans une histoire temporelle pour subvenir aux besoins des survivants. Donc il va voyager dans le temps et va donc par la suite vivre plein d'aventures, puisque forcément il y a plein de choses à faire avec le temps. Et je n'en dis pas plus. Alors c'est un film que je recommande parce que c'est une ambiance qui personnellement bien sûr m'a énormément plu, c'est des images qui me plaisent, je suis très sensible à la photo pour ceux qui me connaissent, Vadim je pense que tu sais,
oui.
vu que c'est ma plus grande passion. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi de faire une petite chronique sur la photo, j'y reviendrai tout à l'heure. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire, mais je n'en dis pas plus encore une fois, j'ai noté ce film 4 sur 5.
C'est une très bonne note.
Et toi, Vadim, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ?
Eh bien, cette semaine, j'ai vu un film qui peut être considéré comme classique, mais que je n'avais jamais vu. C'est Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête de Tim Burton.
J'ai vu aussi.
T'as aimé ?
J'ai plutôt, ouais, plutôt.
Plutôt bien aimé. Alors, ce film, il n'a pas eu une place facile dans la filmographie de Tim Burton. Beaucoup le trouvent trop caricatural, trop burtonien, justement. Il est incapable de choisir entre l'horreur et la comédie. Bref, c'est un film qui divise. Pourtant, Sleepy Hollow est assez intéressant. Il raconte l'histoire d'un village isolé et brumeux du nord de l'État de New York où un enquêteur rationnel est envoyé pour élucider une série de meurtres mystérieux. Les victimes semblent avoir toutes été décapitées et la légende locale accuse un cavalier sans tête revenu d'entre les morts. Sleepy Hollow, c'est précisément le film où les qualités de Tim Burton se cristallisent le mieux. Ses obsessions y prennent leurs formes les plus pures. Le film fonctionne parce qu'il assume pleinement ce mélange de genres. Burton s'approprie un conte populaire américain et en fait une véritable synthèse de conte pour enfants, au sens original du terme. Un conte qui est à la fois effrayant et amusant, moral mais aussi gore. Sleepy Hollow, il va rappeler que les contes ne sont pas gentils par nature et que l'horreur et le fantastique font aussi partie du jeu. Visuellement, l'ambiance est prodigieuse. Ce village perdu dans la forêt, noyé dans les brumes et les collines, est un bijou esthétique. Chaque plan respire le gothique burtonien. Et le casting est totalement à la hauteur. Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, tout le monde joue la partition avec un plaisir évident. C'est un festin visuel, un vrai conte horrifique, assumé. Et puis bon, avec Johnny Depp jeune, rien que pour ça, le film vaut le détour. Je l'ai noté 8 sur 10.
Johnny Depp ou Sleepy Hollow ?
Le film, t'inquiète. Et petite parenthèse sur les actualités du cinéma. Je vais parler rapidement des nominations pour les 98e Oscars qui ont été annoncés. Et là, le film Sinners, il est en train de battre un record, et même il a battu un record historique en obtenant 16 nominations, le plus grand nombre jamais enregistré dans l'histoire des Oscars. Il dévance alors One Battle After Another, qui récolte 13 nominations. Et avant Sinners, le record de nominations, il était détenu par All About Eve, Titanic et La La Land, qui avait tous les trois 14 nominations.
On va passer donc à la chronique, mais avant, on va écouter une petite musique classique, parce qu'on n'en écoute pas assez, je trouve, à la radio. Alors, je vais vous mettre la Sarabande de Georges Frédéric Händel.
Thank you.
Vous êtes bien sur CFM Radio et vous venez d'écouter la Sarabande, une musique classique utilisée dans le film de Kubrick, Barry Lyndon.
Et oui, excellent film, c'est mon préféré. D'ailleurs, je pense que je l'ai déjà dit et redit sur cette émission. Mais Barry Lyndon, excellent, avec une très très bonne photographie. Et est-ce que ce ne serait pas une petite transition sympathique avec le sujet que je vais aborder ?
Incroyable, Lina. Quelle transition de fou. Je ne m'y attendais pas du tout.
T'as vu ça ?
J'ai vu ça.
Non, j'ai improvisé. Alors, la photographie, ce sujet très très vaste, puisque la photographie en cinéma existe, paradoxal, mais ça existe. Le directeur de la photographie, c'est celui qui s'occupe de la lumière et des couleurs, globalement pour créer l'ambiance ou... Voilà, c'est très très vaste. Mais j'ai quelques petites questions pour toi, Vadim, et vous, les auditeurs. À quel moment l'apparence finale d'un film est-elle vraiment décidée ? Donc, dans l'apparence, j'entends un peu par l'esthétique aussi. Est-ce que c'est avant le tournage, sur le tournage ou à l'étalonnage ?
Bien, écoute, je pense que ce serait à l'étalonnage, vu que c'est même la fonction première de l'étalonnage qui est de travailler un peu la lumière du film en post-production.
C'est exact. L'étalonnage, il nous permet de modifier les couleurs, les contrastes, tout ce qui est luminosité. Certains films peuvent d'ailleurs, avant l'étalonnage, ne pas du tout ressembler à ce à quoi ils ressemblent après, parce qu'il y a des films plus étalonnés que d'autres. Ça dépend du réalisateur et des choix techniques envisagés. Pourquoi ajoute-t-on parfois du grain sur les films tournés en numérique ? Pour masquer les défauts, pour imiter la pellicule, parce que c'est à la mode.
C'est un peu compliqué, j'hésite entre la 2 et la 3, mais je vais quand même rester sur le fait que ça imite la pellicule et donc ça apporte une certaine nostalgie. Donc je vais garder cette réponse.
Et effectivement, pour imiter la pellicule, le numérique en fait produit une image très propre et parfois trop...
Lisse.
Ouais, trop lisse. Et le grain, il permet un petit peu de redonner une impression qu'il y a de la matière. Et... de la chaleur, en fait, à cette image. Bon, aussi un petit peu, parce que parfois, c'est à la mode, surtout avec les réseaux. Mais c'est surtout pour imiter la pellicule. Quand un spectateur dit qu'il ne voit rien dans ce film, est-ce que le problème vient le plus souvent du chef OP, donc directeur de la photographie qui s'occupe de tout ça, du réglage de l'écran ou du scénario ?
Ah ouais. Moi j'aurais dit que c'est le réglage de l'écran, parce que je pense que tous les films sont tournés pour être parfaitement visibles. Donc si le spectateur ne le voit pas bien, c'est que il n'a pas le budget nécessaire pour voir un film dans les meilleures conditions.
Eh bien c'est la bonne réponse, mais c'est aussi surtout parce que les téléviseurs sont mal réglés par défaut. Donc vu que les films plus récents ils utilisent une plage de contraste plus large, ça nécessite en fait un écran plus calibré. Pourquoi certains réalisateurs continuent-ils à tourner en pellicule aujourd'hui ? Est-ce que c'est par nostalgie, pour la texture et la dynamique de l'image, ou parce que c'est plus simple ?
Alors déjà, c'est pas plus simple, c'est même plusieurs. Alors, je pense que je prendrais les deux, la première et la deuxième, parce que oui, il y a une certaine nostalgie à tourner comme ça, mais aussi, ça montre que tu maîtrises la caméra, le fait de pouvoir utiliser les anciens équipements qui n'étaient pas forcément plus abordables que les nouveaux.
Ouais, alors, on va mettre la nostalgie de côté, parce que c'est pas tellement un choix technique non plus, mais c'est plutôt pour la texture et la dynamique de l'image, ça c'est sûr. En fait, la pellicule, elle réagit à la lumière de façon plus organique que le numérique. Elle offre une profondeur et une texture qui sont plus compliquées à reproduire donc avec le digital. On en a un petit peu évoqué certaines. Et même avec les technologies de nos jours, c'est difficile de les reproduire. Mais par contre, Oppenheimer, tu vois, par exemple, est tourné en pellicule. Et c'est pas forcément par nostalgie, mais c'est plutôt pour les qualités de la pellicule. J'ai une dernière question. Pourquoi a-t-on l'impression que beaucoup de films récents, aujourd'hui, se ressemblent visuellement? Est-ce que c'est parce que les caméras numériques donnent toutes la même image? Est-ce que c'est parce que l'étalonnage est de plus en plus standardisé? Ou que les chefs opérateurs ont de moins en moins de liberté artistique?
Alors là, j'en ai strictement aucune idée.
Tu donnes ta langue au chat ?
Je donne ma langue au chat.
C'est parce que l'étalonnage est de plus en plus standardisé. En fait, la majorité des films aujourd'hui passent par ce qu'on appelle des workflows de post-production similaires. Et en fait, c'est souvent pensé pour des plateformes, donc Netflix, etc. Il y a un usage de presets. Les presets, pour ceux qui ne savent pas, c'est des préconfigurations de réglages. Donc là, vu que c'est dans l'étalonnage, c'est dans les lumières et les couleurs. Et ça crée une homogénéisation des images, même quand les intentions artistiques sont différentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si tu as remarqué, Vadim, sur Netflix, il y a un peu toujours, surtout dans les séries, les mêmes aspects un peu visuels.
Ouais, je vois la même atmosphère colorimétrique. Mais c'est parce que comme ils le font que pour les plateformes, donc pour des écrans qui n'ont pas forcément la qualité d'un écran de cinéma, ils mettent tout au même niveau. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais. Oui, je vois. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est comme mon avis. ça manque de singularité, en fait, et de... ça manque la patte du réalisateur, tu vois. Il n'y a plus de patte du réalisateur, et moi, je trouve ça un petit peu triste. On se retrouvera la semaine prochaine, ou alors le samedi à 14h et le mercredi à 19h, ou en podcast, sur CFM Radio. Salut à tous !